Patrick Tchibouye, bonjour.
Bonjour.
La Cour pénale internationale a accompli 15 ans d'existence. À l'occasion de cet anniversaire, pouvez-nous dire quelle a été la mission confiée à cette institution à sa création?
En résumé, la Cour a été créée pour enquêter et poursuivre les auteurs de crimes graves, à savoir les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, les crimes de génocide et le crime d'agression. Toutefois, et il est important d'insister là-dessus, la CPI n'exerce cette mission que si les systèmes nationaux, ça veut dire les tribunaux nationaux, n'ont pas la volonté ou n'ont pas la capacité de le faire. C'est ce qu'on appelle le principe de complémentarité. Et c'est ce principe de complémentarité justement qui garantit la souveraineté des États, dans la mesure où on reconnaît que c'est d'abord aux États de pouvoir poursuivre en premier lieu les auteurs des crimes qui sont de la compétence de la Cour pénale internationale.
Et si ces États sont eux-mêmes les présumés auteurs, c'est qui?
D'abord, la Cour pénale internationale ne poursuit pas les États, ne poursuit pas les personnes morales. Seules les personnes physiques relèvent de la compétence de la Cour pénale internationale. Mais nous avons au sein du statut de Rome une disposition fondamentale qui est l'article 27 qui parle du défaut de pertinence de la qualité officielle. Ça voudrait dire que les individus qui sont seuls justiciables devant la Cour pénale internationale, et ces individus peuvent être poursuivis quel que soit leur rang social. Donc un chef d'État, un membre de gouvernement, un ministre, un député, un sénateur peut être poursuivi devant la Cour pénale internationale parce que la CPI ne reconnaît pas le statut officiel.
Alors, j'irai dire la mission de la CPI 15 ans après. Quel est le bilan?
Alors, 15 ans après, nous avons 24 affaires qui ont été ouvertes devant la Cour pénale internationale. Nous avons eu 9 condamnations et un acquittement. 6 suspects sont détenus par la Cour. Il faut aussi ajouter que nous avons 6 affaires qui sont au stade du procès, 2 en phase d'appel et 3 en phase de réparation. Nous avons malheureusement 14 suspects qui sont encore en fuite parce que les mandats d'arrêt lancés à leur encontre n'ont pas encore été exécutés.
Parmi les affaires déjà traitées ou en cours de traitement, il y a les affaires congolaises.
Dans les affaires congolaises, vous avez l'affaire le procureur contre Thomas Lubanga qui a été reconnu coupable, qui est en train de purger sa peine ici en pleine démocratie du Congo. Germain Katanga qui avait été reconnu coupable mais qui a déjà fini de purger la peine qui a été prononcée contre lui par la Cour pénale internationale. Mais il reste en détention parce qu'il est poursuivi par la justice nationale congolaise pour d'autres faits que ceux pour lesquels il avait été condamné par la Cour pénale internationale. Mathieu Ngoudjolo a été acquitté. Actuellement, nous avons le procès Bosco Ntaganda qui est en cours et nous avons un suspect, Sylvestre Muda Chumura, qui n'est pas encore arrêté parce qu'il est en fuite.
Vous avez évoqué l'affaire Thomas Lubanga qui a été condamné il y a 5 ans. On voit en étant avec le processus d'indemnisation des victimes.
Alors ça, c'est une très bonne question. C'est vrai que concernant les réparations de l'affaire Thomas Lubanga, nous attendons toujours la décision qui sera rendu par les juges, parce qu'il faut rappeler un principe fondamental, les réparations ne peuvent être accordées que si l'accusé est reconnu coupable. C'est comme ça que dans l'affaire Mathieu Ngoudjolo, comme il a été acquitté, nous n'aurons pas de réparation pour les victimes. Mais dans l'affaire Thomas Lubanga, nous attendons la décision sur les réparations, étant donné qu'il a été reconnu coupable. Mais les juges ont rendu dans une autre affaire, l'affaire Germain Katanga, la première décision sur les réparations. Et ça c'est important d'insister là-dessus. Donc c'est au mois de mars 2017 que la Cour pénale internationale a rendu sa première décision sur les réparations au profit des victimes de l'affaire Germain Katanga. Et ça, c'est également un élément à mettre dans le bilan de la Cour pénale internationale pendant ces 15 ans, parce que pour la première fois de l'histoire de la justice pénale internationale, des victimes obtiennent réparation devant les juridictions pénales internationales. Ça n'a jamais existé, ni devant le tribunal militaire de Nuremberg, ni au tribunal pénal international pour le Rwanda, ni au tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. C'est la première fois dans l'histoire de la justice pénale internationale que des victimes obtiennent réparation devant une juridiction pénale internationale.
Oui, mais des réparations collectives et symboliques.
Des réparations individuelles accordées à 250 victimes dans l'affaire Germain Katanga, qui se concrétisent en indemnisation décidée par les juges. Indemnisation symbolique, c'est vrai, de $250 que chacune de ces 250 victimes recevra. Également, des réparations collectives que les juges ont décidées, qui prendront la forme d'aide au logement, d'aide à l'éducation, de soutien psychologique, qui sont donc là des réparations collectives qui ont été prononcées au bénéfice de ces 250 victimes.
Aujourd'hui, il y a certainement aussi des victimes dans le Kassai, avec la crise sécuritaire connue dans cet espace depuis août 2016. Comment la CPI se comporte par rapport à cette situation?
Ce que je peux vous dire, c'est que Madame le procureur de la Cour pénale internationale, Fatou Bensouda, a eu dans sa déclaration du 31 mars 2017, a rappelé que son bureau continuait son travail en République démocratique du Congo et qu'elle n'hésiterait pas à agir si des actes constitutifs des crimes relevant de la compétence de la Cour sont commis, et elle prendra donc toutes les mesures qui s'imposent pour poursuivre en justice les personnes responsables en conformité avec le principe de compétence. complémentarité.
Patrick Tchibouyi, merci.